Bienvenue au podcast de Nouvelle Acropole Montréal. Aujourd'hui, nous continuons la série La philosophie des mythes avec le mythe du roi Arthur et de la table ronde. Comme toute mythologie, celle de l'illustre roi Arthur a traversé le temps transmettant des valeurs essentielles qui sont à la base de toute véritable culture et civilisation. Dans la légende du roi Arthur, comment distinguer les éléments historiques de la mythologie? En quoi cette épopée peut-elle être utile en une période où l'on sent un grand appel à renouer avec la vie une et le temps qui régénère? Ce dialogue est animé par Pierre Lemasson et Daniela Barella, philosophe. Bonne écoute!
Alors, bienvenue à tous. C'est bon de vous voir. C'est parce que les mythes, c'est quelque chose de très important. On va voir pourquoi, on va voir qu'il y a des choses à apprendre des mythes.
Alors, si on dit par exemple que la philosophie est l'amour de la sagesse, philo, amour, sophie, sagesse, philosophie des mythes est l'amour des mythes. Et puis dans quel sens? C'est dans le sens que les mythes peuvent nous enseigner des choses. Aujourd'hui, on a la conception de mythes comme si les mythes étaient des choses qui on disait « Ah, ben c'est un mythe, le fait que tu vois un chat noir passer devant toi, tu vas voir avoir de mauvaises choses qui vont te passer au courant de la journée. » Mais en fait, un mythe, et on peut voir dans les civilisations que ça a été un moyen de transmission. De transmission de quelque chose qui ne peut pas nécessairement être compris avec le seul intellect, avec la seule raison. Un symbole, c'est-à-dire de façon symbolique. Et puis, qu'est-ce qu'il y a en symbole? Disons, si je donne une rose à quelqu'un, ça serait le symbole de mon amour. C'est-à-dire, cette rose va représenter quelque chose de plus profond que juste le fait de dire « je t'aime » ou « je t'apprécie ». Alors, les mythes sont aussi... c'est une histoire racontée de façon symbolique. Et ça peut parler de l'être humain, ça peut parler de l'histoire, ça peut parler de la société, des origines de l'univers et du destin de l'être humain aussi. Alors ce soir, on veut vous inviter à parcourir cette aventure du mythe du roi Arthur et la table ronde pour voir qu'est-ce qu'on peut découvrir de tout ça avec ce mythe. Alors Pierre, qu'est-ce que tu penses? Pourquoi des fois on dit que les mythes sont à la fois uniques et universels?
Oui, en effet. Ils sortent de la catégorie historique parce que on se rend compte souvent aujourd'hui, mettons dans les temps mettons plus modernes, que les historiens vont essayer de prouver la véracité d'un mythe, la valeur donc d'un mythe, s'il est valable ou pas dans l'histoire, si en fait c'est factuel. Si on peut retrouver l'origine, un peu comme l'histoire de la bataille de Troie, eh bien, il fallait retrouver la ville de Troie pour se dire, sinon c'était une invention peut-être. Et est-ce qu'on a vraiment retrouvé la ville de Troie? Bon, on peut bien comprendre que c'était dans l'Empire grec, mais de l'époque d'avant. Mais à travers l'histoire comme ça, ce qu'on va se rendre compte, c'est qu'en fait, les dimensions du temps, du vécu au quotidien, là où les réalités sont éphémères, où par exemple chaque saison, tous les étés, bon, on a de nouveau une effervescence de la nature, printemps, été, à l'automne, ça disparaît, il y a le sommeil de l'hiver, surtout bon, dans les tropiques, dans les latitudes plus élevées, on vit plus les saisons, Au niveau de l'équateur, ils ont plutôt trois saisons, comme de pluie et de soleil et de sécheresse. Mais ces rythmes-là font que tout est temporaire et passager, alors que le mythe a une qualité dans la durée. Il a une qualité aussi, comme tu le disais, Daniela, de faciliter la transmission parce que c'est quelque chose qu'on peut mémoriser et transmettre même au-delà d'une génération, de génération en génération. Puis on peut comprendre aussi que, mettons, avant le 16e siècle, l'arrivée de l'imprimerie avec Gutenberg, bon, bien, les livres, la dimension transmise écrite était un luxe, un grand luxe. Donc la transmission était verbale, était orale. C'est une transmission orale. Et donc on racontait l'histoire du monde, l'histoire des origines, pour mieux comprendre notre identité, mieux comprendre notre appartenance, notre rôle dans le monde. Mais on peut bien comprendre que ces histoires, hein, on le sait, celles qui nous ont inspirées dans notre jeunesse, c'était des légendes, hein, c'était des histoires, un peu comme Walt Disney en a repris beaucoup pour imager, comme Cendrillon, Blanche-Neige, et etc. T'sais, puis tous des petits classiques là, qu'on a connus, surtout en Occident, eh bien, ça fait partie de ce monde imaginaire qu'on pourrait dire, ouais, mais est-ce que c'est réel? Est-ce que ça a vraiment existé? Il faut se poser la question. Donc, est-ce que la valeur du mythe est dans le fait que c'est eu lieu ou pas lieu? C'est important de se poser cette question. Et on va se rendre compte que non. Et que même dans le cas des légendes du roi Arthur, bon, il est vrai qu'il y avait un roi qui avait à peu près ce nom-là à la fin de l'Empire romain, en 455, quelque part. Dans la région anglo-saxonne, ou ce qu'on appelle la Britannie, là, chez les Bretons. Il y a dû avoir des aventures de chevaliers et tout ça, mais en fait, c'est une légende, c'est un mythe celte, dont les éléments existent déjà des milliers d'années avant. Donc, ce n'était pas en 455. C'est juste que ce qui est intéressant, c'est que ça s'est passé à ce moment-là par des gens qui ont été inspirés par un mythe qui existe déjà et qui s'est donc reproduit à travers le temps, entre autres dans la Renaissance. Il y a eu plusieurs auteurs dans les années 1200, puis après 1300, qui ont repris le cycle arthurien, dont on va parler plus en détail, et qui vont l'enrichir de chapitres. Et enrichir un peu aussi tous les caractères que sont chaque chevalier, etc., dans cette histoire, et le rôle des dames aussi. Donc, ce qu'on constate par rapport à l'aspect unique et universel, c'est que c'est universel dans le sens que ça va inspirer à différentes époques des moments de vaillance, de conquête, de rétablir une unification, une paix, comme dans la légende arthurienne, on parle de Camelot. On veut recréer Camelot. Cette inspiration-là, elle est d'abord imaginée. On ne la voit pas quand on commence à faire ce travail, cette conquête. Et on ne peut pas l'acheter au magasin. Il va falloir qu'on l'imagine d'abord pour pouvoir avoir donc un imaginaire de vision collective qui inspire tout le monde pour une cause commune. C'est là la force du mythe aussi. Et ça correspond aussi un peu à ces époques, comme j'ai mentionné, des Moyen-Âge et puis des moments de Renaissance. Les Renaissances vont s'activer dans l'histoire parce qu'il y aura eu le mythe, même dans la période noire du Moyen-Âge ou du bas Moyen-Âge, où plus rien ne semble possible. Et vous pouvez faire un lien de cela avec votre vie au quotidien. Des fois, on a des situations personnelles où rien ne va plus, on ne sait pas comment on va se débrouiller pour s'en sortir, mais on va se brancher, on va se connecter à l'espoir et une vision, quitte à même demander de l'aide. Ce sera un élément qu'on va amener. Donc il y a des périodes de division et des périodes d'union qui vont se succéder. Et j'aimerais aussi après vous introduire comment on peut relier ça au cycle des saisons comme au cycle de la journée.
Oui. Et pour faire ça, peut-être que ça serait le moment ou important que, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, et des petits éléments qui vont pouvoir nous situer pour ensuite en parler.
D'accord. Excellent. Alors, mettons, commençons par mettons, le début d'un cycle. Plaçons-le au solstice d'hiver, si on prend les quatre saisons, qui correspondrait, mettons, à minuit dans la journée, dans un cycle d'une journée. Puis, qu'est-ce qui se passe à minuit? Bien, de minuit à 6 heures, ça va être une période assez tranquille, mais où se passe un travail important de préparation, de régénération, de mise en place de nos forces vitales et émotionnelles pour la journée. Quand on va se réveiller le matin, on va avoir des ressources. C'est un peu un mystère comment on les a acquises. Ça se passe dans l'ombre, pendant la nuit. N'est-ce pas? Bien, la même chose, la période de l'hiver, hein, qui va du solstice d'hiver au l'équinoxe de printemps, les mois d'hiver, janvier, février, mars. Alors, notre histoire est d'abord, il y aura quatre phases comme ça. Et notre première phase, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Alors, on est dans une situation de noirceur maximale. Il n'y a pas de royaume dans la Bretagne de cette époque. Et les ducs se font la guerre. Il y en a plus vaillants que d'autres qui veulent établir l'union, la paix, mais qui n'y arrivent pas. Ils font appel à la lumière. Font appel lui-même. Alors c'est Uther Pendragon qui va faire appel. Et va donc apparaître Merlin, s'il n'était pas déjà là, mais dans le sens qu'il va apparaître comme un acteur qui va intervenir. Et je garde l'histoire très simple, parce que vous pouvez imaginer, dans le temps qu'on a, mais vous pourrez toujours lire, et vous trouverez de nombreuses versions aussi, mais ces clés-là ne sont pas indiquées dans les textes qu'on lit. Quand on lit, ce sont des romans. Donc avec la clé qu'on développe ici avec le cycle arthurien et les quatre phases, on va mieux comprendre comment, en fait, ensuite, ça peut s'appliquer dans nos vies, des enseignements. Alors, Merlin révèle que, ben oui, vous ne pouvez pas faire l'union. Regarde, le château que tu essaies de conquérir à Tintagel, qui est pris par un autre duc, où il y a... Donc, il s'écroule à chaque fois qu'il est complété. Eh bien, regarde au fond, là, quand il est écroulé, qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux dragons qui se battent. Un dragon blanc et un dragon rouge, et qui crée un tremblement de terre, donc ça ne tient pas à chaque fois. Et là, ils vont tomber paisibles un bout de temps, vous allez essayer de reconstruire, puis ça va encore s'écrouler dès qu'ils se réveillent. Donc, beaucoup d'instabilité, période d'instabilité où on est dans la dualité de deux dragons. On peut imaginer que c'est aussi le symbole du Tao, mais qui n'est pas harmonisé, qui n'est pas tenu. Merlin, qu'est-ce que je vais faire? Et alors, il dit, Uther Pendragon, il essaie d'inspirer celui le plus vaillant. Lui-même admet, abdique, il dit, je ne peux pas, fais intervenir ta magie. Et Merlin, bon, bien, il dit, OK, l'homme, l'humain, l'a demandé. Alors, le ciel va intervenir, il va mobiliser les pouvoirs de l'esprit, et il va faire que Uther va rencontrer Ygraine, qui se trouve être la femme du duc qu'il combat, mais qui a le pouvoir avec lui de concevoir Arthur. Et Ygraine ne s'en rendra pas compte, parce que bon, ben, ce sera un subterfuge grâce à la magie, mais l'enfant qui naît, ben, Ygraine se rend bien compte qu'il est illégitime, et va devoir, ne pourra pas le garder, et Merlin va se charger de son éducation, ou du moins comme protecteur. Et donc toute la jeunesse de Merlin, jusqu'à l'âge adulte, va se faire dans l'ombre. Cette fameuse phase, mais pendant cette phase, Le monde est encore dans le chaos, les ducs en ont marre, et c'est l'époque plus sombre, donc, où Merlin peut dialoguer avec les acteurs du monde, et puis il leur dit, bien, quand Uther Pendragon meurt, il lui dit, cette épée d'Uther, qui avait le rêve de la paix, eh bien, je la mets dans ce roc, dans ce rocher, et celui qui sera capable de la retirer du rocher aura légitimement le pouvoir d'être le roi qui vous unira. Alors, c'est intéressant, hein, qu'il fallait quand même qu'il y ait cette volonté de l'humain, d'Uther, qui va donc... Et on voit qu'on va se rendre compte que le symbole de l'épée va être justement l'union des dragons. L'épée représente la force unie des deux dragons.
Et c'est intéressant parce que c'est déjà, on voit que Merlin donne une solution. Il y a un chaos qui est en train de s'installer ou qui est déjà installé et qui cause des dommages. Parce que les personnes, les gens ne s'entendent pas. Alors, le fait qu'on a posé la question à Merlin, et Merlin a pu donner une solution, et dire, bon, maintenant, il va y avoir quelqu'un qui doit sortir l'épée du rocher. Est-ce qu'on sait c'est qui? Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui est arrivé?
Ben, personne ne le sait avant que ça se passe. Mais aussi, le parallèle qu'on pourrait faire historiquement... Ouais. C'est que même dans une époque où il y a beaucoup de divisions, de chaos, ou du moins des conflits entre beaucoup de ducs, de pouvoir, des jeux de pouvoir, comme dans l'époque qu'on vit en ce moment, où on se demande à qui suivre, parce que c'est au service de quoi. Eh bien, on pourrait dire qu'on est dans une époque en ce moment, dans les temps modernes actuels, où le futur n'est pas clair. Parce que c'est très court terme. Hein? D'une année à l'autre, c'est incroyable ce qui peut se passer, mais tout est court terme. Et ce n'est pas nouveau. Si on regarde au moins depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a eu, mettons, le progrès technique, la richesse matérielle et tout ça, mais ce point de vue qui cherche à dire que la vérité, les choses sont vraies, seulement si on peut les vérifier matériellement, hein, comme vérifier un mythe, eh bien, nous fait qu'on n'a plus accès au mythe. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus accès à l'esprit. Dans notre langage, dans notre culture actuelle, s'il y a tant de divisions dans le monde ou d'incertitudes, c'est parce qu'on est on a remplacé l'esprit par les biens matériels. Donc, par quoi je pourrais donner un exemple tout simple. La richesse matérielle veut dire pouvoir aujourd'hui. Mais encore mieux récemment, la santé. La santé est un bien qui doit être géré, qui doit se maintenir, un peu comme les deux dragons, qui implique une dynamique d'équilibre constant, de dormir assez, être assez actif, puis travailler, les opposer en outre constamment pour garder la santé. Donc c'est un bien dont on a le mérite seulement si on est proactif. Avec cela, à différents degrés, parce que tout le monde ne commence pas non plus dans sa vie avec les mêmes ressources, pour ce qu'on appelle la santé. Mais de l'amener que comme quoi c'est une valeur plus importante que l'amour, que la fidélité, que la vérité même. Là, on est dans une dérive où on a mis encore le matériel, les biens, au-delà des valeurs atemporelles, des valeurs de l'esprit, des valeurs qui nourrissent notre âme et notre esprit, qui sont normalement animées par le cœur, alors que le monde des biens, c'est plus géré par la tête, c'est plus une affaire de gestion. Et quand on a des biens, bien, mettons autour de la table, quand on partage un bon repas, eh bien, on partage, parce que les proportions sont limitées de ce qu'on partage. C'est vrai pour les biens, mais pour ce qui est des valeurs, c'est illimité, c'est universel. C'est pour ça qu'on disait que les mythes nous transmettent une nourriture de l'âme et de l'esprit universelle, mais aussi unique dans le sens de qui ne se corrompt pas avec le temps. Eh bien, dans les époques comme maintenant ou comme le bas Moyen Âge, à toutes les époques, il y a eu des hommes et des femmes qui se sont mis ensemble pour planter les graines, l'essentiel, l'essence, pour que dans l'avenir, dans un cycle annuel, ce sera 3 mois plus tard, il y aurait un printemps où on a une promesse d'une possibilité et qu'il y aura potentiellement, si on l'espère. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Merlin, il a planté l'essence. Il a aidé à mettre ensemble des situations, mais il fallait que les acteurs le fassent sur le terrain. Et le rôle, par exemple, d'une organisation philosophique comme Nouvelle Acropole, c'est un peu ce rôle à travers le temps. Nous, on travaille avec le mythe de l'histoire parce qu'on croit qu'il y a un avenir. Mais ce n'est pas un avenir qui est conséquence des faits actuels. Ça prend, on doit se relier au cycle complet et comprendre que dans l'époque où on est, c'est normal qu'il y ait de la noirceur si de toute façon ça va être suivi par une époque de lumière. Mais pour que cette époque de lumière puisse, qui sera le printemps et l'été, il faut que des graines se préparent sous la terre. S'il n'y a pas de graines de planter, eh bien quand le soleil sera là, ça va être le désert. Et le soleil est là, il fait chaud dans le désert. Mais il n'y a pas de vie.
On pourrait dire que quand l'épée a été mise dans le rocher, c'était un point décisif, c'est-à-dire qu'il fallait que maintenant, il y a quelque chose de planté, il fallait maintenant que quelqu'un arrive pour commencer à donner la vie, pour commencer justement sortir l'épée et commencer un nouveau cycle, une nouvelle partie du cycle.
Oui, justement. Ouais. Alors, il y a quelque chose qui va déclencher, et justement, ce sera de tous les chevaliers qui, pendant une génération, vont essayer de tirer l'épée parce que moi, je suis le plus fort, et jamais ça marche. Bien, par accident, passe Arthur par là. Et a besoin d'une épée, ah, tiens, il y en a une sur le rocher, il sait même pas, il connaît même pas l'histoire, et il l'enlève, et puis tout le monde autour est abasourdi, il la remet, oups, excusez-moi, je me suis trompé, les autres disent, mais tu seras pas capable de nouveau, c'est pas possible, toi, petit garçon, tu sais, aide, qui accompagne les chevaliers, là, tu sais, bon, non, non, alors, mais bon, alors tout le monde est rassemblé, puis là, finalement, il va tirer l'épée et tout le monde doit reconnaître que, ouais, ça, c'est lui, l'élu dans le sens plutôt qui a, on ne sait pas pourquoi encore, mais le mérite de faire l'histoire, d'être celui qui... Alors là, il dit, mais moi, je ne veux pas ça. T'sais, les gens sont contents, là, enfin, on a l'espoir, mais... Tous les ducs qui ont des propriétés, qui sont plus vieux que lui de 2 fois, 3 fois son âge, qui ont plein d'intérêts, puis on sait que c'est un monde aussi qu'il faut. Comment dire, il y a beaucoup de compétitions marchandes et tout ça. Eh bien, ils ne comprennent pas qu'est-ce que ce petit jeune-là va comment il va les aider. Alors, non, ils se révoltent. Il y aura peu qui vont commencer à le suivre au début. Et voyant cela, lui-même, Arthur, ben, il dit à Merlin, qu'est-ce qui c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne veux pas être ça. Je veux être libre de choisir mon avenir. Je ne comprends pas. Là, je n'ai jamais rêvé d'être un roi. Et Merlin lui répond, tu n'es pas un roi. Mais où penses-tu que ta liberté va se trouver? Tu fais ce que tu veux, mais où est-ce que tu penses que ta liberté va se trouver? Donc, il y a un destin. Chacun a son destin. Il va se rendre compte qu'il va devoir vivre son destin. Prendre son courage en main, évidemment. Et la première chose qu'il va faire, c'est je ne sais pas comment m'y prendre, qu'est-ce que je fais? Il commence à poser des questions. Et Merlin, parce qu'il pose des questions, Merlin va pouvoir l'instruire. Et là, il y a une relation maître-disciple qui s'installe. Jusqu'à ce qu'il ait atteint un peu minimalement cette maturité et qu'il puisse commencer à guider les autres chevaliers qui reconnaissent sa valeur et qui, eux, croient aussi dans la vision. Et progressivement, ils vont conquérir. Donc, pendant tout le printemps, alors ça prend du temps, il faut que tu travailles avec le temps. Ils vont conquérir tout le royaume. Ils vont établir un royaume et rassembler jusqu'aux plus résistants.
Et c'est intéressant parce que ça me fait penser aux deux choses. Cette partie où Arthur prend l'épée. D'abord, et on peut faire le parallèle avec la Bhagavad Gita. Peut-être que vous avez déjà entendu parler. C'est justement, il y a Arjuna qui, à quelque part, est au milieu d'une bataille entre deux, et, disons, les Kauravas et les Pandavas. Et c'est lui qui doit prendre son arc et lancer la première flèche. Mais lui aussi, il laisse tomber son arc. Il dit, je ne peux pas. C'est-à-dire que cette, quelque part, ce fait de prendre l'épée ou de prendre l'arc, c'est une prise de conscience. Oh, il y a quelque chose, on a un outil pour aller faire face à la bataille, mais aussi à une bataille. Alors, c'est cette prise de conscience. Et qu'est-ce qui se passe quand on prend conscience de quelque chose? Quelque part, on devient responsable de ça.
Ah, la responsabilité, mais aussi de l'identité.
Exactement.
Quelle est mon identité? Et dans ce sens, une identité qui va... Quand on se pose des questions sur notre identité, faut qu'on, on a tendance naturellement à aller à l'origine.
Ouais.
Hein, je suis né de qui, de où et où? Et puis peut-être, bon, mes racines. Il y a un lien entre racines et identité. Mais dans le cas de la Bhagavad Gita, Arjuna, ben, c'est un kshatriya, c'est un...
Un guerrier.
Un guerrier dans son rôle et son devoir de profession, si on veut, de vocation, c'est un devoir de vocation. Et Krishna, qui est l'esprit, comme Merlin, qui lui parle, ouais. Et lui dit, bien, qu'est-ce que tu fais là, avoir abandonné tout et puis de tout laisser tomber et de ne pas vouloir faire la bataille, eh bien, n'es-tu pas... Qui es-tu? N'es-tu pas un guerrier?
Mm-hmm.
Il le rappelle à son destin, à sa nature et à son identité. Donc, on a tous, quelque part, une vocation dans la vie, une nature, une identité et même une mission, quelque part, à notre propre échelle.
Et cette question que Merlin pose aussi, mais... qui pose à Arthur, mais elle est où ta liberté selon toi?
Ça.
Des fois, on pense que la liberté, c'est peut-être de faire ce qu'on veut, quand on veut, comment on veut. Et... Mais on peut prendre un exemple. Si on voit quelqu'un qui sait danser, quelqu'un qui fait le ballet, qui danse, c'est-à-dire très harmonieusement, même un athlète, même un musicien qui joue, je sais pas, au violon, au piano, peu importe. Elle, on admire sa liberté de jouer à la musique, de danser, de courir, pas parce que la personne a fait ce qu'elle veut, ce qu'elle voulait, quand elle voulait, comme elle voulait, mais parce qu'elle a su faire face aux difficultés et aux obstacles, décider de les dépasser, trouver des forces intérieures, et ensuite, exprimer le meilleur de soi-même. Alors, si ma vocation est celle d'être, de danser par exemple, je vais devoir faire face aux défis. Et ma liberté se trouve de décider de faire face à ces défis-là. Et ça, c'est la même chose avec le roi Arthur. Est-ce que tu, c'est-à-dire, elle est où ta liberté? Est-ce que tu vas décider de faire face à tes défis, à ce que va t'amener à connaître ton identité.
Exactement.
Ouais.
Un très bon exemple. Alors, notre Arthur fait ce travail, ils arrivent donc à être, bon, dans une, on peut imaginer en haut d'une montagne, tous les chevaliers qui confirment que les régions dont ils sont responsables sont apaisées et et que voilà, c'est conquis, et puis que là, ils sont là pour célébrer tout d'un coup cette possibilité de créer l'unité. Et ils vont le faire. Et là, Merlin va être présent, et il va leur rappeler, parce que justement, quand ils arrivent à ce moment-là, qui est très particulier, Merlin a le pouvoir d'apparaître parce qu'ils se sont réunis. Ils sont dans l'unité. Autrement, il est là dans la période qu'on se serait le solstice d'été, et ce n'est pas son temps à lui. Et là, il va aussi les avertir que une des capacités de l'humain, mais une des natures de l'humain, c'est d'oublier. Mm-hmm. D'oublier d'où on vient, et pourquoi on a fait tout cela. Mais il dit bravo. Et de là, ils ont quand même le rêve, maintenant qu'ils doivent concrétiser. C'était l'élan, le printemps. Là, c'est l'été. Et là, on va bâtir. On va bâtir le château, Camelot. Et dans le château, on va mettre la table ronde autour de laquelle va pouvoir s'asseoir les chevaliers. Puis elle est ronde, justement, parce qu'ils ont tous un rôle complémentaire, mais égal dans ce sens. Et c'est aussi l'esprit donc des compagnons bâtisseurs, mais c'est aussi le rôle des dames, de la cour. C'est aussi le grand mariage de Guenièvre, la reine qui va se marier avec Arthur, et donc qui forme le couple royal. Ce n'est pas que la conquête, mettons, d'un roi. Non, non, c'est qu'est-ce qui s'établit dans cette unité? C'est le couple royal. Et le couple royal représente justement un peu comme l'union qui manquait avec les deux dragons qui se battaient, le monde des instincts, le monde du souterrain. Eh bien là, avec la volonté humaine, il y a un pouvoir d'union entre les opposés et qui va permettre la prospérité et l'abondance. Et donc ils vivent, là ils vont vivre dans l'abondance. Et ce sera donc cette période d'été, comme on peut comprendre, où le monde extérieur est plus visible, et qui est, on peut comprendre aussi que c'est un peu l'opposé de l'hiver où tout était noir et tranquille et sans vie. Tu sais, si on prend un peu la signature des extrêmes dans ce sens-là.
Tu as amené, disons, une idée du fait que l'humain a cette possibilité ou capacité d'oublier, et que Merlin vient rappeler. Alors, il fait une fonction de mémoire. Et c'est très intéressant parce que sinon, si nous, là, nous faisons l'exercice, imaginons que tout à coup, il y a quelque chose qui nous arrive ici maintenant et on perd la mémoire. Qui serions-nous? C'est-à-dire, je serais là, je ne sais pas comment je m'appelle, je ne sais pas où j'habite, je ne sais pas qui est mes amis, ma famille, qu'est-ce que j'ai appris jusqu'à maintenant. Ça, en tant qu'individu, mais ça peut arriver aussi en tant que société. C'est-à-dire, si la société, disons, comme roi Arthur, si la société du roi Arthur perd sa mémoire, il y a le chaos. Parce que qui sommes-nous? Vers où allons-nous? Dont aussi l'importance de retrouver l'identité pour pouvoir avoir ses repères. Mais tout ça pour te poser la question. Alors, est-ce que ça veut dire que Merlin représente cette mémoire-là? C'est justement de venir se ressourcer aux origines, peut-être.
Bien, d'où, d'une mm-hmm. façon maintenant plus illustrée, déjà avec la moitié du cycle parcouru, où on voit le sens du mythe comme une mémoire, qui est transmissible, mm-hmm. Et qui contient aussi les éléments du pourquoi, mm-hmm. de pourquoi on fait les choses. Quand on gère nos biens, on ne se pose pas nécessairement la raison pourquoi. On va se poser des questions d'efficacité, d'optimisation, etc. Ça, c'est le langage des gestionnaires. Mais le pourquoi, on m'a donné l'ordre de, l'ordre. D'où vient l'ordre? D'où vient le commandement? Il faut qu'il y ait quelqu'un aux commandes. Et c'est l'identité. Mm-hmm. Donc, ce Merlin, il est un peu comme notre voix du silence à l'intérieur de nous, mm-hmm. qui nous permet de... Justement, peut-être avant d'aller se coucher, à ce minuit, tous les parce que c'est un cycle d'une journée aussi, si on veut. Donc, à minuit, ou l'équivalent du moment où je vais m'apaiser et tomber dans un sommeil, qui correspond un peu à cette période de l'hiver, me ressourcer, eh bien, je peux faire l'appel à Merlin. De sorte que quand je me réveille, le lendemain matin, il y a une épée dans un rocher, quelque part. Et je dis, ah! C'est la solution que je cherchais. Mm-hmm. N'est-ce pas que ça arrive quand on est honnête et transparent avec soi-même, et puis qu'on se dit, finalement, il y a des ressources plus grandes que ce que je sais. Mm-hmm. Ça, c'est...
Ouais.
Oui. Et, mais ce sens-là, c'est que ça nous amène finalement une mémoire de l'avenir aussi, du potentiel. Qui est comme réminiscence de pourquoi finalement on est aussi sur Terre incarné. Ce n'est pas juste un jeu de génétique. Et peut-être l'image en plus qu'on a dans ce cycle arthurien, c'est que s'ils ont réussi à construire Camelot, mais Camelot est un véhicule de la paix. Et même pour Merlin, le défi au début, quand on lui dit, bon, ben, on veut établir la paix, mais on n'y arrive pas, il se rendait bien compte qu'il fallait qu'il y ait un véhicule qui puisse prendre l'essence. Il fallait que ce soit Arthur. Il fallait que ça s'incarne. Mais à travers Arthur, c'est devenu contagieux, mais plus que ça. Bon, il a pu rayonner la lumière comme un Apollon. Et puis, finalement, tous se sont ralliés autour de cette vision dans l'intérêt de tous. Parce que aussi, ce qui est, avait, peut-être qu'on n'en a pas mentionné, mais que le fait qu'il puisse enlever l'épée comme ça, on va dire de façon naïve, mais aussi avec un cœur pur, un sens du service. Lui, tout ce qu'il comptait, c'est de servir. C'est, d'être un servant. C'est pour ça qu'il ne se voyait pas comme roi. Mais il va découvrir que le meilleur roi, c'est être au service des autres. Et donc là, on a cette situation de Camelot où voilà, c'est vraiment le service qui rayonne pour tous. Mais le fameux combat qui était avant extérieur, on pourrait dire, ben maintenant, c'est comme les vacances, ou c'est plus tranquille. Les chevaliers n'ont plus besoin d'être si chevaliers que ça, après tout, parce que, bon, ils vont faire des combats dans des jeux, c'est tout. Mais non. Maintenant, le combat doit être intérieur, peut-être, pour maintenir la relation, la convivialité entre tous, la nourrir, et en fait, la développer plus loin encore, et la transmettre. Donc, ce combat qui était extérieur, comme façon de mettre en place un véhicule social collectif, mais il fallait aussi, pour le maintenir, il faudra qu'il y ait aussi en parallèle ce combat intérieur.
Et j'aime bien ce que tu as dit d'entretenir, parce que qu'est-ce qui se passe? Disons, nous avons une maison, elle est là, elle est bien, mais qu'est-ce qui se passe si personne ne l'entretient? Elle va s'écrouler par soi-même. C'est-à-dire, tout ce qu'on croit acquis, il faut faire attention. Parce qu'il faut prendre soin de ce qu'on croit acquis. Et c'est ça, maintenant, qu'Arthur va se rendre compte. Il y a une autre quête. Il y a un autre combat. C'est pas juste ce qui se passe à l'extérieur, mais maintenant, on peut tourner les regards vers l'intérieur.
Et ce qui va se passer donc, dans l'histoire, c'est que... les chevaliers continuent à faire leur travail, ils partent à l'aventure un après l'autre, et il y a toujours des choses à régler, donc ça prend du courage, et on va se rendre compte comment chaque chevalier représente une facette de l'ensemble, du roi Arthur, une facette de son caractère. Et on dit dans ce symbolisme que le roi reste au centre tout le temps. C'est un peu comme notre conscience, notre centre, retrouver son centre. C'est le roi Arthur quand on retrouve notre centre. Mais quand on est dans l'action, il y a des modes, des modalités d'être, des styles de personnalité qu'on va emprunter, des rôles qu'on va jouer, mais qui vont nous demander à avoir exprimer certains traits de caractère particuliers. Puis ça, on le voit à travers chaque chevalier. Mais parce que justement, il y a ces caractères, et donc des caractères souvent même opposés, Hein, si vous avez fait de la typologie de caractère au niveau psychométrique, vous savez que ça marche comme ça. Les introvertis, les extrovertis, ou ceux qui pensent aux détails, ceux qui ont la vision globale, ou ceux qui sont plus rationnels, ceux qui sont plus sentiments. Vous connaissez ça, hein? On a tous été exposés à ça un peu dans notre milieu professionnel. Alors, mais justement, ces opposés, c'est un peu comme le masculin et le féminin, c'est ce qui fait la vie. Hein? C'est ce qui fait qu'il y a une charge entre des opposés et un courant. Pour que la vie existe, il faut que ça prenne des courants. Donc c'est bon, les polarités. Mais elles sont là, et si on s'identifie à un pôle, là, on va entrer en conflit avec l'autre. D'où ce combat intérieur constant, pour constamment, comment dire, pouvoir vivre la noblesse de la cour, qui est d'où va venir le mot de la courtoisie. Et les chevaliers qui sont au service, qui expriment, eux, la volonté pour la justice. Pour la justice, et d'abord envers les faibles, les gens âgés, les femmes, et puis tu sais, les enfants, tout ça, dans le sens qu'ils ont un rôle de protecteur qui sera l'équivalent de la police à tous les niveaux aujourd'hui, ou du militaire, nécessaire dans n'importe quelle structure, système immunitaire, si on veut. Okay? Mais cette volonté doit être là, reliée à l'identité, mm-hmm. Le système immunitaire, et reconnaît ce qui doit et ne doit pas être là. Bon. Et puis, on a une autre dimension qui est la dimension... des dames qui amènent justement un peu les gardiennes du feu, hein, qui apporte le feu, qui apporte la chaleur et la lumière, qui aussi correspond à la transmission de l'enseignement, l'éducation, qui correspond aussi à apporter la beauté, l'éthique et l'esthétique, hein, dans l'environnement. D'harmoniser la vie conviviale. Donc plein de qualités féminines qui s'expriment à travers la dame. Et puis d'autres, les compagnons, qui sont compagnons bâtisseurs, mais aussi qui fournissent un peu tous les outils dont on peut avoir besoin pour faire toutes sortes de travaux, mais qui sont donc les inventeurs. C'est une autre dimension, ça, d'un aspect masculin. Et qui vont donc, c'est ça, utiliser l'expression beaucoup de l'intelligence pour donner forme aux choses. Eh bien, cette cour, cet état de noblesse demande un travail parce que ça correspond à cette lumière de l'été qui est là, mais qui doit être captée dans la communauté humaine, dans le royaume. Et Camelot en est le cœur qui bat, et le centre, un cœur qui bat. Mais il va y avoir des petits soubresauts dans le cœur qui bat. Des situations, par exemple... justement, on ne va pas développer tous les chevaliers et les caractères, mais on a un chevalier qui est le chevalier des chevaliers, Lancelot, qui, lui, représente, si on veut, la maîtrise, la perfection. Il va même...
L'accomplissement.
L'accomplissement de cet état de la volonté incarnée et qui va même... être reconnu par le roi dans un combat comme « Oui, ben, tu vas être mon chevalier numéro un parce que tu es mon égal. » Tu sais, je veux dire, dans le sens que tu es ce qu'il y a de mieux. Mais, je ne vais pas développer les détails là parce qu'il y a plein de petites sous-histoires, hein, dans le cycle arthurien. Il y a aussi le fait que, par exemple, pendant la conquête, je pense que c'est important de le mentionner maintenant pour comprendre la suite, qui est la phase du printemps, eh bien, Arthur, avant qu'il soit évidemment marié à Guenièvre, parce que ça faudra d'abord que Camelot soit établi, eh bien, il aura une aventure avec une demi-sœur qui va lui jouer un tour, parce qu'elle a des pouvoirs un peu comme Merlin, de sorcière. Ils vont concevoir un enfant que Arthur ne sait pas qu'il a, mais qui va s'appeler Mordred, qui va être donc le fils de Morgane, c'est sa demi-sœur, qui était une fille de Ygraine, qui était donc ce château initialement là, à Tintagel. Eh bien, donc ça c'est une des histoires. Il y en a d'autres qui se passent. Par exemple, la fameuse épée qui s'appelle Excalibur, elle a une âme. Elle est elle-même esprit et matière. Elle est, comme on l'avait dit, le Tao des deux dragons. Et pour qu'elle puisse exister dans ce monde, eh bien, c'est la Dame du Lac qui va l'apporter. Donc on voit que c'est le monde qui harmonise, le monde féminin, qui harmonise hein, les opposés, qui a le pouvoir d'amener cette épée. Et cette Dame du Lac, donc quand l'épée est perdue ou si elle est brisée, ce qui va arriver dans le combat avec Lancelot et Arthur, mais comment on ne peut pas briser ce qui est imbrisable, va dire Merlin. Mais c'est parce que c'est l'orgueil d'Arthur qui aura été touché et qu'il va devoir dépasser pour pouvoir de nouveau aller chercher l'épée que la Dame du Lac va lui redonner, réparer. Alors, on voit les épreuves hein, qu'il doit quand même traverser. Je l'ai finalement amené, mais on va comprendre que dans l'épreuve, les épreuves après qu'ils ont, bien, c'est que maintenant, ce fameux Lancelot, eh bien, il tombe en amour avec Guenièvre, qui est la reine. Aïe, aïe, aïe. Et Arthur finit par s'en rendre compte. Il les prend même au fait, dans la nuit. Et là, il ne peut pas tolérer ce qui se passe. Il en avait entendu des chuchotements. Il y avait déjà un peu la zizanie autour de la table ronde à cause de tout ça, sans compter d'autres problèmes de convoitise. Eh bien, il va planter l'épée dans la terre entre deux, entre Guenièvre et Lancelot, et se sauver, et se dire, voilà, moi c'est comme si j'abandonne. Et par rapport à son histoire, par rapport à l'histoire, la grande histoire, par rapport à ce qu'il canalise, tout s'arrête. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'énergie ne passe plus, le monde rentre dans l'automne. On a tous les phénomènes de l'automne, naturels, mais qui vont être quand même un problème à résoudre pour la conscience humaine. Le roi n'est plus roi. Il y a quelque chose qui se passe. Il tombe malade, gravement malade, et il va demander à ses chevaliers, partez à la conquête de l'harmonie qu'on appelle le Graal.
Et c'est très intéressant parce que quand on préparait cette présentation, cette conférence, tu m'as dit quelque chose d'intéressant par rapport au nom du Graal. Qui, ça veut dire... Ben en fait, dis-nous, qu'est-ce que ça veut dire, le Graal?
Bien, déjà, on parle du Saint Graal, mais c'est aussi une imagerie qui peut avoir différentes formes, mais quand elle est dans le champ plutôt chrétien, surtout dans les œuvres du 12e, 13e siècle, eh bien là, c'est un calice. C'est la forme du calice. Et qui contient... dans le rite chrétien, il contient le vin qui représente le sang du Christ. Et donc, on a aussi le corps du Christ qui va être représenté dans le rite par l'hostie, lui qui est blanc. Alors, on a le blanc et le rouge encore comme les dragons. On a de l'alchimie là encore qui se présente, c'est pas par hasard. Parce que ça représente dans les forces de la nature les éléments masculins, blanc et rouge, féminin, qui, donc, on doit retrouver l'harmonie du sang et du corps. Mais du Christ, ouais. Du Christ qui veut dire lumière, de l'esprit, que Merlin avait facilité, mais il fallait l'assumer en conscience, ce qu'Arthur a pu faire jusqu'à un certain point. Eh bien, alors là, c'est collectivement, tous les chevaliers partent. Alors c'est bien, parce que c'est toute la personnalité, Arthur et toutes ses facettes de son caractère qui se mobilisent, bien que le centre est perdu. Et le monde s'affaiblit. Alors on l'appelle le Saint Graal, Mais dans l'ancien langage royal, le mot royal, ça se disait réal. Et le sang réal ou le sang royal, ben sang, si vous écrivez dans votre esprit sang réal, vous pouvez aussi le lire comme saint Graal.
Alors,
c'est donc ce sang royal qui est la lumière du Christ, qui est vie. Mm-hmm. C'est la lumière de l'esprit universel, du mythe, mais qui est vie, et faut retrouver la vie. Alors, les chevaliers partent. Lancelot va être le premier à trouver où se trouve ce château, où se trouve le Graal, mais qui apparaît de temps en temps sur un lac. Mais il faut dans des conditions particulières que tous les chevaliers ne verront pas. Lancelot sera le premier. Va arriver Perceval, qui va aussi le voir, mais ne pourra pas aller plus loin que la porte parce qu'il ne pourra pas répondre aux questions. Et finalement, le plus pur, qui sera le fils de Lancelot, mais qui aura été élevé dans la forêt, Galaad, et qui deviendra un chevalier lui-même tellement pur qu'il a la possibilité de s'asseoir autour de la table ronde sur le seul siège occupé par aucun chevalier qu'on appelle le siège périlleux. Et il peut s'y asseoir sans conséquence. Donc, pur de cœur. Lui va pouvoir regarder à l'intérieur du Graal et poser la question et avoir la réponse. Il a une réponse qu'il va transmettre à d'autres chevaliers, mais il va mourir. Il va en mourir. C'est-à-dire qu'il va passer dans l'autre monde parce qu'il aura vu l'autre monde. Et là, on est à l'équinoxe d'automne. Autant l'équinoxe de printemps, iki égale, on tire l'épée du rocher. Donc, on a l'épée d'un côté et on a le Graal de l'autre, au moment de l'égalité aussi, l'équinoxe d'automne. Hein, où l'équilibre entre le blanc et le rouge, les deux dragons encore, regarder au-delà de l'horizon du monde incarné et avoir la réponse finalement du monde céleste qui va dire, ce message va être ramené au roi, roi sur le point de mourir, épuisé, à peine capable d'écouter, on va lui dire, le Graal dit, le roi et la terre font un. Et là, on vient d'un message tout simple qui va faire que le roi va se réveiller tout d'un coup, reprendre en énergie, très rapidement, retrouver son souffle, son cœur se remet à battre, et va appeler tous ses chevaliers et dire « On part au combat ». Ah, il y a un autre combat qui va se faire pendant l'automne. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par « le roi et la terre font un »
Bonne question.
T'as une idée, toi, Daniela?
On parlait déjà qu'il y a, pour amener la vie, pour amener l'équilibre, pour amener la paix, il s'agit d'harmoniser deux forces, d'harmoniser. Et c'est intéressant parce que, de fois, on peut penser, la paix, qu'est-ce qu'est la paix? Qu'est-ce qu'est l'harmonie? Ah, ben c'est d'amener, si on était tous égaux, ça, on serait tous d'accord, alors la paix serait installée. Mais dans les faits, c'est pas comme ça. Nous sommes tous différents, nous avons le droit d'être tous différents. Alors comment arriver à harmoniser quelque chose qui, à première vue, est différent? Et il y a une question que j'aime poser, parce que pour moi, c'est une bonne image, c'est du fait que les couleurs de l'arc-en-ciel soient différentes, est-ce que ça empêche à l'arc-en-ciel d'exprimer une harmonie? Je ne pense pas. Et c'est ça. Alors, quand le roi et la terre font un, il y a une harmonie. Et ce n'est pas parce que tout est égal, mais parce que il y a une unité au-delà de ce qui est différent.
Le roi dans le sens de la royauté, qui va inclure la reine, mm-hmm. parce que dans cette nouvelle quête, il va revoir Guenièvre, qui est au couvent. Elle était comme exilée, mais elle était au couvent, finalement. Dans cette époque, pour les versions de cette époque, c'était ça qui allait se passer. Ils sont tous les deux d'accord dans la mission qui est à accomplir, qui reste à accomplir. Camelot a déjà été réalisé, mais il faut reconquérir l'harmonie quand même. Ça va se faire encore à travers eux. Comme notre jeune Arthur, qui vous dit, moi je ne veux pas être un roi, c'est quoi ça, je veux juste être au service, être un servant, c'est bien assez. On est au printemps, équinoxe de printemps. Mais là, on a un roi qui dit, oh mon Dieu, il faut que je parte au combat. Et puis, la vision que j'ai reçue du Graal, le roi et la terre font un, eh bien, je ne peux pas abandonner le monde. Et le monde est en train de... C'est la famine. Alors, heureusement, là, les chevaliers, partout où ils passent, le monde refleurit. Tu sais, c'est un peu comme l'été indien au Québec. Tout d'un coup, il fait chaud, on se croira en été, on est au mois d'octobre, novembre. Bon, c'est à peu près ça. Mais c'est pas grave, on est dans l'automne, mais c'est pas grave. Il y a la vitalité qui revient, le sens de la vie est retrouvé, et ça ne dépend pas juste du phénomène terrestre et des conditions terrestres de division naturelle, mais ça dépend de l'attitude qui, elle, est cette fameuse unité qui est présente tout autour. Tout le long. Le roi, c'est la royauté qui veut dire, en fait, la noblesse de l'esprit qui est présente tout le long du cycle. Mais, donc, il devra faire face, régler son histoire avec Lancelot, mais régler aussi un autre défi et combat qu'il va avoir, parce que, cependant, sa maladie, son épuisement, c'est lever une armée qui est dirigée par Mordred. Lui veut prendre le pouvoir, son fils, qui se dit légitime, étant fils d'Arthur. Mais c'est un peu comme dans la guerre des étoiles, là, c'est le Darth Vader, Mordred, il n'est pas drôle. En tout cas, c'est tous les défauts, c'est l'absence de lumière. Alors, il porte bien son rôle, mais Arthur ne peut pas laisser ça se faire, parce que ce serait un peu comme... entrer dans un monde de tyrannie, où tout le monde finalement abdique, tout le monde est en épuisement, tout le monde est en famine, puis tout devient machine, tout est juste terre. Mm-hmm. Il n'y a pas la noblesse de l'esprit. Donc le roi et la terre font un, c'est un peu comme on le voit dans l'enseignement à Nouvelle Acropole du septenaire, qui est une clé tellement importante pour notre vie. La triade, c'est le roi et la terre, c'est le carré, la personnalité. Donc, ils font un. C'est pas un est mieux que l'autre. L'humain est pont entre ciel et terre. Mm-hmm. Et notre rôle, c'est d'être ce pont, d'être ce un. Comme l'épée verticale, mais aussi le calice. Bon. Mm-hmm. Maintenant, donc il va y avoir, oui, des combats. Et partout où il y a des oppositions... ça va se régler dans des duels. Et bon, je ne veux pas tous les décrire, mais s'il y en a un, c'est où finalement Arthur, à la fin, va être en duel avec son fils Mordred. Et on pourrait se dire, tu vas tuer ton fils, oui ou non, est-ce que tu oses? Il a bien vu tout ce qui se passe là, depuis des mois, depuis des années en fait, dans le cycle arthurien. Et il doit oser, mais il n'ose pas en même temps, mais il va le faire. Et lui-même va mourir parce qu'il va être blessé aussi par son fils. Ils vont tous les deux mourir. Mais dans un combat noble qui rétablit l'équilibre, qui élimine, exorcise si on veut. Hein, c'est qu'il va tuer le monstre que lui-même n'aurait jamais cru qu'il aurait pu créer c'était son ombre. Mordred était son ombre. Il va oser affronter son ombre et lui-même va devenir complet. Entier en tant que héros à la fin du cycle. Et donc va pouvoir passer Dans l'autre monde, au moment de son fameux repos, arrive minuit, et il fait appel au ciel encore, et voilà, vont venir, la dame du lac va venir avec le bateau, ils vont l'amener dans l'île d'Avalon, qui est de la vie éternelle.
Peut-être que je vois, je sais que le temps passe.
On a fait une heure.
Voilà. Peut-être qu'il y a des questions, qu'il y aurait des, bon, aussi des commentaires. Maintenant que on est arrivé et qu'on arrive à Avalon.
C'est ça. On a bouclé la boucle.
Le cycle.
Ouais. Mais vous pouvez avoir toutes sortes de questions qui vont élucider d'autres aspects des symboles, de ce mythe, de cette histoire.
De signification.
Oui. Oui, j'ai une question.
Oui.
C'est pas une question, mais je médite, je pense. Je me demande pour quelle raison toujours la personne qui se sent incapable d'accomplir quoi que ce soit, c'est elle qui est au fond capable, ou bien c'est elle qui a toutes les capacités à l'intérieur, et puis que tous les autres qui se sentent vraiment, je ne sais pas, ça devrait être eux, quoi.
Oui,
Ils sont là, mais ils sont impuissants. Et je ne comprends pas pourquoi.
Bien.
C'est-à-dire, pourquoi la personne, pourquoi c'est toujours, par exemple, David, pourquoi c'est toujours... j'ai du mal à comprendre ça.
Intéressant. Et aussi, il y a un niveau de lecture. Parce qu'on peut avoir deux versions dans votre question. Hein, c'est, mettons, une version plus matérialiste, où on aurait finalement, ceux qui réussissent, vu que les objectifs sont à court terme, ils réussissent temporairement, dans l'actualité, eh bien, c'est les plus compétitifs. C'est les boxeurs, c'est ceux qui mettent KO l'autre, rapidement, avec la plus grande force. Et on applaudit. On est bien heureux d'avoir des chefs comme ça, parce que c'est ça qu'on veut, des profits à court terme. C'est collectivement, on vote pour ça.
Ouais.
On mérite les chefs qu'on a, voilà. Mais si, dans les mythes, là, vous faites référence aux légendes, aux mythes qui nous inspirent, où ce sont apparemment les moins aptes, David et Goliath, pourquoi penses-tu, Daniela?
Et parce que dans le fond, c'est pas nous. Je veux dire, je vous pose la question. Est-ce que c'est pas nous ça tous les jours? Ces mythes sont en train de nous expliquer que devant le doute, il y a la possibilité de dépassement. Parce que les héros dans tout le mythe sont l'archétype humain. Alors, c'est celui qui se croit, qui pense, qui ne peut pas, celui qui réussit, parce qu'à l'intérieur de lui, il a l'espace intérieur pour apprendre. Ceux qui pensent déjà savoir, ceux qui pensent déjà dire « Ah ben c'est moi qui va le faire, tassez-vous », n'ont pas de la place pour apprendre. On peut se poser la question, mais... Si je sais déjà tout, pourquoi continuer à marcher? C'est-à-dire, pourquoi continuer l'aventure? Parce que je connais déjà tout. Je pourrais bien rester assise ici, puis voilà, je suis accomplie. Alors, c'est en fait, peut-être, une vertu, ce fait de dire, je ne peux pas, mais je vais le découvrir. Je suis consciente que j'ignore des choses, mais je suis consciente aussi que j'ai la capacité de les connaître, de m'approcher, de les résoudre. Alors, c'est une très bonne observation, et c'est, pour moi, c'est très encourageant de le savoir comme ça.
Oui, super, Daniela. Et puis, en fait, pour compléter, ajouter... Je ne suis pas en train de dire non plus que tous les chefs, plus on est chef et plus, mettons, c'est corrompu. Pas du tout. Parce que c'est populaire de dire que le pouvoir corrompt. Alors qu'en fait, dans ces mythes, ben là, on a un pouvoir, mais qui exige la pureté. Eh bien, ça semblerait pas logique. C'est pour ça qu'on dit que c'est des histoires pour les enfants. N'est-ce pas? Alors, et qu'en effet, on en connaît tous des chefs, hommes et femmes, des parents même, qui sont chefs de famille, ou, et à tout d'autres niveaux d'entreprise, etc., qui ont cette générosité de cœur et qui ont ce sens du service pour plus grand qu'eux. Et le plus grand que soi doit vouloir dire plusieurs choses. Un, c'est évidemment plus grand que moi, ben, tous ceux dont je suis responsable. Par rapport à guider, par rapport à une vision, une mission et une capacité de nous adapter au quotidien pour guider bien la barque, être le capitaine du bateau. Donc oui, responsabilité d'un équipage. Mais quand on dit aussi plus grand que soi, c'est reconnaître qu'il y a un mystère, il y a un inconnu. Même dans mon propre avenir, mon propre potentiel, mon propre destin, si rationnellement je ne le comprends pas encore, c'est normal. Parce que ça me dépasse. Mm-hmm. Si je le savais, je serais accompli, comme tu dis, Daniel, bah, je n'aurais rien à faire, je serais un Bouddha accompli. Mais alors donc, il va y avoir une transformation. C'est-à-dire que je suis un apprenti de la vie, même quand je suis un chef. Et les meilleurs chefs, c'est les meilleurs servants. Avoir ce sens du service hein, pour les autres. Et donc, cette ouverture aussi, mais cette capacité de voir remettre en question, d'apprendre pour justement s'adapter à des conditions qui changent constamment. Bon, y a le plus grand que soi veut dire plusieurs choses, et on peut se rappeler même de ce Socrate hein, qui, pour retrouver son centre, hein, donc être en position d'être le roi, le centre, se recentrer, bien, il dit « tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Alors qu'en fait, c'est un des grands sages. Mais oui. L'humilité est le fondement même d'un leadership, d'une capacité de commander, de gouverner, et commençant par la gouverne de soi-même, de sa propre vie. Oui. Alors, est-ce, je sais pas, est-ce que ça touche des points que vous posez comme question?
Je rajoute aussi que tu avais dit que, par exemple, lui, c'était genre un fils illégitime face, par exemple, à des gens nobles qui sont durant toute leur vie, ils ont pris l'épée et puis ils étaient capables de combattre. C'est un peu... quand même, c'est un peu... J'imagine que c'est pas logique, mais c'est tout le temps ce qui arrive. Et puis,
Bien, aussi, peut-être que l'image qui est là, mais qui est... C'est pas juste que ça arrive dans le mythe, c'est que dans l'histoire, ça arrive comme ça. Quand on comprend, on lit notre histoire, la période de la Renaissance, mais c'était les quelques groupes d'humains, d'humanistes qui se sont mis ensemble puis qui ont osé se rassembler en catimini, en cachette, bien souvent, surtout pendant l'Inquisition. C'était pas compliqué, t'allais être éliminé rapidement. Combien de gens étaient exécutés comme sorcières ou comme tout simplement parce qu'ils étaient des bons médecins ou parce qu'ils réfléchissaient ou ils pensaient par eux-mêmes. Alors, qui osaient faire quelque chose de nouveau, mais qui sort du cadre de ce qui est déjà établi et sclérosé. Et sclérosé au point de ne pas avoir d'avenir. Donc, ça prend le renouveau en simultanément qui déjà se développe. C'est pour ça que le travail de Nouvelle Acropole aujourd'hui n'est pas de dire on a les réponses, par exemple, et d'aller au gouvernement et de dire ben voilà, c'est pas compliqué, suivez les enseignements de sagesse. Non, on fait un travail d'harmonie, de courtoisie ensemble, on vit l'avenir qui sera possible pour l'humanité déjà aujourd'hui, parce qu'il faut qu'on démontre entre nous-mêmes que c'est possible, que ça fonctionne, même si on est des petits David miniatures. Et puis le reste va durer son temps. Parce que vu que de toute façon, dans l'époque actuelle, on ne planifie pas beau très loin, ça ne va pas durer longtemps ce qui se passe actuellement, au fond, en termes de cycle de siècle. Une génération. Il y a peu qui pensent au-delà de leur propre vie personnelle qui sont au pouvoir. Bon, enfin, c'est pas. C'est ça. On n'a pas alors qu'on peut avoir des époques dans l'histoire où on pense. Et ce n'est pas seulement, mettons, dans l'histoire occidentale ou européenne. On le trouve dans toutes les traditions. Je ne sais pas, mais au nord du Japon, ça existe encore de faire des plans pour 200 ans. C'est peut-être un peu anachronique, là, mais ils l'ont gardé. Les peuples amérindiens parlaient toujours de 7 générations. Chaque chose qu'on décide collectivement, quel est l'impact pour 7 générations? Ils essayaient de visualiser. Mais ça veut dire qu'ils avaient une vision aussi de ce qui était possible dans l'avenir.
Peut-être dernière question.
Oui.
Le combat d'Arthur avec son membre, j'arrive pas bien à comprendre la finalité un peu de ça. Puis en même temps, sans lumière, il n'y a pas d'ombre. Donc on dit que Arthur représente la lumière, puis son fils, c'est son alter ego, une relation de dualité entre les deux. C'est ça. C'est que c'est ce paradoxe en fait, selon lequel sans lumière, il n'y a pas d'ombre.
Oui. C'est la condition de l'incarnation. C'est pour ça que pour ceux qui ont déjà suivi, mettons, avec la vision du septenaire, ou si je mettais ça à un niveau, mettons, plus public, que si on n'a jamais vu ce que je veux dire par le septenaire, bien, on a l'esprit qui est unité en soi, qui est pureté en soi, qui n'est pas dans l'espace-temps, donc ne peut pas se corrompre. Ça veut dire qu'on peut se relier à quelque chose de pur, comme la source, avant même que ça devienne lumière. Okay? Et alors que là, Arthur, dans le monde, il rayonne un peu comme un Apollon, une lumière, mais il la canalise, cette lumière de l'esprit, il a son rôle de centre. Mais comme nous tous, nous avons donc, sous la lumière, qu'on le sache ou pas, de notre esprit, qu'on sache qu'on a un esprit ou pas, okay, il reste qu'il y a un ego. Et l'ego, c'est ce centre. Hein, c'est ce centre du moi, le sens de moi, je suis ça, moi j'ai cette responsabilité, moi je m'engage à ça. Donc ce n'est pas mauvais, il faut un ego, sinon on ne peut pas être responsable. Mais il n'y a pas que ça. Il y a tous les véhicules qui sont un peu comme le cheval. Et c'est pour ça que l'image du cavalier sur un cheval est importante, dans le sens que on doit quelque part apprivoiser notre véhicule dans lequel on incarne. Notre corps physique, notre corps vital, notre corps émotionnel, qui sont toutes des dimensions de puissance qui appartiennent aussi à la Terre, qui, collectivement, on les partage avec les autres. Et puis, dépendamment où on se branche, le courant va être... il va y avoir une capacité soit de générer, parce qu'on se branche verticalement à notre esprit, ou... On ne sait pas que l'esprit existe, donc on est matérialiste, par exemple. Je reviens à ce que je disais au début. Et là, j'ai besoin d'énergie, j'ai besoin d'excitation, je vais me brancher à l'autre. Tu sais, alors, ça peut être créer la chicane. Ah, ça me donne un petit trip, tu sais, une excitation. Les autres se mettent en chicane, en guerre, je divise les autres. Ça me donne une énergie. En plus, je peux avoir un pouvoir sur eux si j'étais dans la relation dominé-dominant. Donc, ces relations dominé-dominant, ce sont toutes sortes de pathologies de la psyché, psychologique, qui sont des jeux de force, justement, entre l'ego et les forces instinctives, qu'on vit tous, hein, mais qui vont, si on ne fait pas le combat intérieur dont on parlait, mais qu'on n'a pas élucidé plus, mais c'est le fameux combat dans la Bhagavad Gita aussi, si on ne fait pas ce combat intérieur, eh bien, on va le vivre à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va toujours en compétition avec les autres, en train de jouer, de faire des jeux de force avec les autres. Et c'est ça qui va nous nourrir presque comme des vampires. C'est-à-dire qu'on utilise l'énergie horizontale. mais qui ne vient pas de l'esprit, qui est très temporaire. C'est un feu qui brûle vite, qui a toujours besoin, tu sais, comme une sangsue, d'aller chercher la vitalité de ce qui se passe autour de nous. Et bien des gens ont du pouvoir aujourd'hui, dans un rôle de dominant, qui est ce Mordred. C'est ça que Mordred représente. L'exploitation de son milieu par le contrôle, par un autoritarisme, par une pensée unique, par tout ce qui peut être tyrannique. C'est Mordred. Ça fait partie de quelque chose dans l'incarnation qu'on doit confronter. Et quand on le confronte, quand on le transperce, quand on le tue, qu'on ose, finalement, on l'assume. Et quand on l'assume, on devient complet aussi nous-mêmes, comme si le dragon rouge et le dragon blanc, tout d'un coup, deviennent un. Mais pouvoir avoir réussi à faire ça, c'est parce qu'on était inspiré par l'esprit. Sinon, tu n'as pas le courage. Et puis surtout, dans ce scénario, c'est son fils. Tu n'aurais pas le courage de tuer ton fils. Tu sais, en anglais, on dit « offspring ». Émotionnellement, ce n'est pas possible. Et c'est ça, notre défi. C'est que là, Arthur, lui, il a vraiment un combat, deux pôles qui correspondent à l'incarnation, de la personnalité, l'ego et son ombre. Carl Jung en parlait très clairement, comme référence, il s'agit de revoir. Dans la voix du héros, on voit ça, hein, comment tu dois oser faire face à ton dragon, à ton ombre, parce qu'il y a une puissance là qui t'appartient. Mais sinon, tu la fuis constamment. Et il était en fuite. Il ne voulait pas faire face à ça tout le long du processus de son cycle. Il s'occupait bien d'autres choses. Ça aide, oui.
Merci, Pierre.
Et c'est notre défi de philosophe.
Ouais.
Le travail philosophique, c'est cela. C'est un travail dynamique. Ce n'est pas juste des pensées pour se relaxer.
De faire des grandes barbes, puis se peigner la barbe.
Faire pousser les ongles parce que. Sont nobles.
Voilà. Alors, merci beaucoup d'être venu pour ce.
Merci à vous.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour rester connecté à la philosophie, visitez notre site web à montréal.acropole.ca. Aussi, Nouvelle Acropole est une organisation à but non lucratif. Vous pouvez nous appuyer en faisant un don ponctuel ou un don régulier en visitant le site web montréal.acropole.ca/contribuer.